Réplique le colonel Chabert avec Jean-Paul Kaufmann et Pierre Pachet. En février 2007, soit 200 ans tout juste après la bataille d'Eylau, Jean-Paul Kaufmann s'est rendu, avec femme et enfants, sur les lieux situés aujourd'hui dans l'enclave russe de Kaliningrad. De ce pèlerinage entrepris pour retrouver la trace de ce qui s'est passé, il a tiré un livre, Outre-Terre, dont le personnage principal est paradoxalement un héros de roman, le colonel Chabert. Preuve, s'il en était besoin, que la littérature ne nous éloigne pas du monde réel, mais l'éclaire. Que nous apprend le chef-d'œuvre de Balzac? Quel éclairage cette inoubliable histoire de spectre, selon la formule de Paul Morand, nous apporte-t-elle sur l'histoire et sur le temps? C'est ce que je demanderai à Jean-Paul Kaufmann et à Pierre Pachet. Mais avec le colonel Chabert, il ne s'agit pas seulement de connaissances, il s'agit aussi de sentiments. Vous écrivez, Jean-Paul Kaufmann, que dans votre famille, Chabert est un personnage fétiche. Qu'est-ce qui lui vaut cette sympathie, cette élection, cette dilection particulière, Jean-Paul Kaufmann?
Je crois que pour la famille Kaufmann, c'est un personnage inépuisable, c'est un personnage, je dirais, intarissable, et qu'on peut s'identifier à lui. Il est peut-être plus difficile de s'identifier à des personnages comme le père Goriot ou le père Grandet, qui sont des types, parce que, au fond, ce personnage de Chabert, évidemment, c'est la figure du revenant. Et on revient toujours de quelque chose. On revient d'une longue convalescence, on revient d'un malheur, on revient d'un séjour en prison, on revient d'un stalag. Donc, ce personnage de Chabert, en plus, pour nous, il est drôle, c'est ça. Bon, on met toujours en avant le côté tragique de cette histoire, mais il fait montre d'un stoïcisme, je dirais, sans artifice, d'une lucidité malicieuse. Et on ne souligne peut-être pas assez ce trait. Le colonel Chabert, il y a une ironie, il y a un humour qui traverse perpétuellement ce livre et qui n'est pas forcément incarné d'ailleurs par le colonel Chabert, mais aussi par l'avoué d'Herville, qui pour moi aussi est un personnage très très important, qu'on revoit d'ailleurs dans la comédie humaine. C'est la figure de l'avoué, le confesseur, le directeur de conscience. C'est dommage d'ailleurs que cette profession d'avoué ait disparu.
Alors, vous dites le colonel Chabert est un revenant, et évidemment les revenants, ça nous parle et nous verrons pourquoi, mais il revient de quoi exactement?
Il revient, oui, il faut dire qu'il est.
Ah oui.
Il faut dire qu'il est. D'abord, c'est un enfant trouvé. C'est un enfant de l'assistance et il s'appelle Hyacinthe. Le problème de l'identité est très important dans le livre. Donc, c'est un enfant aussi de la Révolution, hein, où l'ascenseur social a fonctionné à plein. Et c'est un homme qui a fait toutes les campagnes de Bonaparte et de Napoléon. C'est un Égyptien, comme le nomme Balzac, c'est-à-dire qu'il a fait l'expédition d'Égypte, mais il a fait aussi Iéna. Et il va se trouver à Eylau, où il est colonel de la garde. Colonel de la garde, c'est un corps d'élite. Il est comte d'Empire, grand croix de la Légion d'honneur. Et il va charger, au cours de cet exploit absolument extraordinaire, qui est peut-être la plus grande charge de cavalerie de l'histoire militaire européenne, il va charger avec Murat et va recevoir un coup de sabre qui va le rendre méconnaissable. Donc il est donné pour mort et il revient 9 ans après. Enfin, dans la première version, parce qu'il y a trois versions du colonel Chabert. La première, c'est la transaction, et c'est très intéressant d'ailleurs, la transaction. Bon, ça se déroule en 1816. Il revient en 1816, donc 9 ans après. Et c'est ça aussi, c'est le revenant, et le monde a changé. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que, d'abord, Napoléon n'est plus là. Hein, notre soleil est parti, comme il dit. Nous avons tous froid. Et il tombe dans cette période où l'argent est roi, la restauration. Et puis, sa femme était veuve. Elle a cru qu'il était mort. Elle s'est remariée. Elle a 2 enfants et elle s'est mariée à un personnage qui est très intéressant aussi, qui est le comte Ferraud. Et on va pas entrer dans tous les détails, mais elle a un peu escroqué le fisc. L'inventaire qui a été fait des biens du colonel Chabert a été sous-estimé. Elle a tout vendu, tout racheté. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette comtesse Ferraud est très riche. Donc elle a fait un mariage d'amour, certes, avec le comte Ferraud, mais c'est un mariage aussi de fortune. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que le comte Ferraud regrette ce mariage. Hein, il trouve que cette femme, finalement, elle n'est peut-être pas tout à fait conforme à son rang. C'est une ancienne prostituée, il faut quand même le souligner, Rose Chapotel, que Chabert a pris au Palais Royal. Donc voilà, et puis elle va finir, on la verra dans d'autres romans de Balzac, elle est la dernière maîtresse de Louis XVIII.
Ah oui, très bien. Alors nous continuerons l'histoire, mais est-ce que vous partagez aussi cette attirance, cet attachement singulier pour le colonel Chabert, Pierre Pachet ?
D'abord, je trouve ça, c'est un plaisir d'entendre Jean-Paul Kaufmann raconter. Il sait raconter, c'est bien. Les références lui viennent, les détails, c'est vraiment mieux. Et moi, j'aime ce récit qui est presque un petit roman d'ailleurs. C'est pas une nouvelle. Il est composé. Enfin, il a fini. Balzac a fini par le composer. Oui, je l'aime. Au fond, je sais pas pourquoi. Différents aspects selon les années. À un certain moment, j'étais très frappé. Peut-être dans un second temps, par le récit que Balzac fait, Balzac qui n'y était pas, qui n'a pas fait la guerre napoléonienne comme Stendhal, le récit hallucinant et halluciné que Balzac fait du moment où Chabert s'extrait du monceau de cadavres sous lequel il est enseveli, ça a une résonance au XXe et au XXIe siècle que ça n'avait pas à cette époque-là, où c'était un épisode presque incroyable. De nos jours, ça l'est moins, et c'est plus saisissant. Et puis, moi aussi, je suis très sensible à la drôlerie de Balzac. Enfin, j'aime Balzac en général, mais là, en particulier, dans la description de l'étude, dans les plaisanteries aussi que font les soldats entre eux, ces plaisanteries très... Ce monde... Le mauvais goût de Balzac aussi, dans la description des choses, des gens... C'est chez lui une vertu incroyable, son goût de la plaisanterie, son désir de nous expliquer la vie, que les femmes sont comme ci, que les hommes sont comme... Ça me réjouit, oui, c'est un plaisir de le lire.
Alors, je ne sais pas si cela relève du registre de l'humour, de la plaisanterie, mais Balzac prend une sorte de plaisir singulier à souligner par des formules, si j'ose dire, impossibles, la singularité du cas. Le colonel Chabert arrive dans cette étude. Il attend l'avoué d'Herville, il parle au clerc, il se présente et il dit « Je suis le colonel Chabert » et sa réputation l'a précédé. Et donc, la question qui lui est posée, le colonel mort à Hélo, réponse lui-même. Un peu plus loin, il a une discussion et il a cette phrase extraordinaire, justement, avec l'avoué d'Herville, qu'il réussit enfin à voir, « Monsieur dit le défunt ». Ça, c'est une phrase. Effectivement, c'est une phrase impossible. Et puis, il y a aussi, et là, on est dans la tragédie, mais là encore, ça amène Balzac à écrire de l'inouï. Eh bien, lorsqu'il se rend compte de la perfidie, de la duplicité de sa femme, il renonce au combat. Et on a cette phrase extraordinaire, il prit la résolution de rester mort. Donc, il avait un certain nombre de revendications, il les abandonne, il abandonne son nom, il n'est plus que Chabert, il n'est plus que Hyacinthe, mais il y a toujours ce jeu inouï autour de sa situation. C'est un mort vivant, puisque c'est un revenant. Il a été déclaré mort, il est là, et donc... Balzac s'enchante en quelque sorte, au moins stylistiquement, de cette situation inouïe. Alors ce n'est pas de l'humour, mais ça l'amène à écrire des choses incroyables.
Oui, il le répète à plusieurs reprises, ma mort est un fait historique. Et puis, à un moment, l'avoué d'Hervy lui dit, mais il faut transiger. D'ailleurs, il demande aux deux parties de transiger, il demande à Chabert transiger et à la comtesse Ferraud, il lui demande aussi de transiger. Il comprend pas très bien le colonel Chabert. Il dit suis-je mort ou suis-je vivant ? Et on est tenté de lui répondre les deux, mon colonel. Oui, oui. Hein, c'est un mort vivant. Oui, et la mort est toujours derrière lui. D'ailleurs, c'est ce que il est un facteur de désordre parce que elle est bigame, la comtesse Ferraud. Et d'ailleurs. La deuxième version du colonel Chabert, la première c'est la transaction, la deuxième version c'est la comtesse à deux maris, et la troisième donc ça sera le colonel Chabert qui va être intégré à la comédie humaine. Et il doit, c'est ça qui est pathétique, parce que à un moment elle lui dit, elle essaie de l'enjôler, et elle lui dit à son premier mari, elle lui dit vous devez renoncer à vous-même d'une manière authentique, hein. C'est lorsqu'elle essaie de l'enjôler, elle lui joue la grande scène avec ses enfants, et puis finalement le colonel Chabert, bah il se laisse faire, voilà. Et heureusement pour lui, il surprend cette conversation avec cet avoué douteux d'Elbeck. Nous le tenons. On va l'enfermer à Charenton. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est il y a la folie qui est toujours présente dans ce livre. Dès le début, dans la description, c'est la cinquième fois qu'il vient chez l'avoué d'Herville. Bon, on se moque de lui, il n'a pas de nom. On l'appelle le vieux Caric, oui, le défunt, le vieux singe. Donc, lorsqu'il arrive pour la cinquième fois à l'étude de Maître d'Herville, il y a cette description où Balzac écrit, c'est une expression dépourvue d'intelligence, et il parle de démonstriste. Hein. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que on ne le dit pas assez, et dans les adaptations au cinéma, on ne peut pas le voir, c'est qu'il est affreux à voir, il est monstrueux, oui. Le colonel Chabert. C'est qu'il a reçu un coup de sabre de l'occiput à l'œil droite, c'est pour cette raison aussi qu'il est méconnaissable. Et à plusieurs reprises, cette histoire de folie, à un moment, Chabert dit « Bon, bah écoutez, si c'est comme ça, moi je vais aller devant la colonne Vendôme, devant la statue de bronze, lui au moins me reconnaîtra. » Et Derville lui répond « Mais on va vous enfermer à Charenton, hein, si vous comportez de cette façon-là. » Donc il y a toujours cette folie qui rôde, et la comtesse Ferraud qui veut l'enfermer donc à Charenton. Et puis il faut bien dire que la dernière scène à Bicêtre, lorsqu'il est dans cet hospice de la vieillesse, il a perdu l'esprit.
C'est une épave. Alors en effet, il y a des phrases terribles sur l'aspect physique de Chabert. Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme. Il s'agit de l'avoué d'Herville. Le cuir qui garnissait l'intérieur de son chapeau étant sans doute fort gras, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en aperçût, et laissa voir à nu son crâne horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l'occiput et venait mourir à l'œil droit en formant partout une grosse couture saillante. Et puis il y a une scène aussi qu'il raconte, il revoit à un moment donné un maréchal des logis avec qui il a fait la guerre, lui qui ressemblait plutôt à un Esquimau qu'à un Français, alors que jadis il passait pour le plus joli des muscadins en 1799. Ce maréchal des logis, au début, ne le reconnaît pas, il est en effet méconnaissable. Quoique mes yeux, ma voix fussent singulièrement altérés, que je n'eusse plus ni cheveux, ni dents, ni sourcils, que je fusse blanc comme un albinos, eh bien, le maréchal des logis Boutin finit par retrouver son colonel dans le mendiant après mille interrogations auxquelles celui-ci répondit victorieusement. Donc, effectivement, c'est un revenant, mais ce n'est plus du tout le même homme, étant donné l'épreuve qu'il a traversée. Alors, doit-on considérer que le colonel Chabert, ce serait une sorte d'Ulysse moderne, parce que c'est aussi Ulysse revient à Ithaque et il n'est pas reconnu par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourrait-on dire c'est une sorte d'Ulysse, le colonel Chabert, Pierre Pelchet?
Oui, le mythe d'Ulysse parle en effet, Primo Levi y fait allusion plusieurs fois, ce que c'est que de revenir d'un autre monde quand on n'est plus attendu et qu'on est plus sûr d'être soi-même. Mais Chabert reste lui-même néanmoins, je trouve, comme le disait Jean-Paul Kaufmann, dans la grandeur même avec laquelle il renonce à ce qu'il a été, il montre la grandeur, je ne sais pas comment dire, napoléonienne de ceux qui ont suivi Napoléon, parce que Balzac n'était politiquement pas du tout bonapartiste, mais il manifeste une étonnante sympathie à l'égard du dévouement héroïque incroyable que les soldats, les officiers ont manifesté envers Napoléon. Oui, c'est une sorte de mythe, c'est-à-dire, je pense que Balzac, enfin, vous l'avez fait sentir, dans ces efforts pour aller aux limites de la condition humaine, du côté de l'homme qui est mort, de l'homme qui est fou, de l'homme qui n'est plus lui-même, je veux pas faire le prof, mais il est très proche de certains aspects du romantisme de Hoffmann ou je sais pas ou d'Edgar Poe, Gogol. Et oui, c'est chez Edgar Poe qu'on trouve des phrases de ce genre, voilà. de quelqu'un qui
Je suis mort, dit voilà, Monsieur Valdemar.
Voilà, dans l'histoire de Monsieur Valdemar. Il y a ça chez Balzac, il y a ce goût pour le bizarre, pour l'étrange, pour les limites de la condition humaine. Mais moi, je suis frappé du fait que quand Balzac a voulu classer ce conte, puisque donc il a eu à un moment donné l'idée de donner une forme unifiée à l'ensemble de ses romans, alors il l'a classé dans les études de mœurs, le colonel Chabert. D'abord, c'est une étude de mœurs, c'est en effet dans la relation avec la comtesse. Puis dans les scènes de la vie parisienne, c'était pas mal, parce qu'en effet, c'est très parisien. D'ailleurs, Paris, c'est l'histoire de Napoléon, parce que quand on est autour de l'étoile, bah, il y a l'avenue de Wagram, il y a l'avenue d'Eylau, il y a l'avenue de Friedland. Napoléon est là partout, encombrant d'ailleurs. Et puis il a finalement décidé de mettre le colonel Chabert dans les scènes de la vie privée. Et là, je trouve que c'est un coup de génie de plus, parce que c'est vraiment au cœur de la vie privée que cette question peut se poser de l'homme qui doit renoncer à son épouse, se sentir trahi par elle, qui doit renoncer à son rang, qui doit renoncer à son grade de grand officier de la Légion d'honneur. Ça représentait quelque chose. C'est un ordre, une espèce de noblesse qui a été créée pour supplanter l'ancienne noblesse. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Paul Kaufmann, d'ascenseur social. C'est plus qu'un ascenseur social, c'est un renversement, puisque ça veut dire que l'emprise de la monarchie et de l'aristocratie sur la société française, la Révolution française puis Napoléon les ont rejetés. Et donc cette armée qui a conquis l'Europe, elle avait des généraux qui étaient des fils de boulangers ou des choses comme ça, et pas du tout des officiers au sens de l'Ancien Régime. Et le dévouement des soldats envers les officiers, envers l'empereur, s'explique aussi en grande partie par cette fierté plébéienne. Mais je suis sensible à ça.
Oui, alors je voudrais revenir quand même à l'histoire d'Ulysse. Hein. Ulysse, lui, il est reconnu par son par son chien et par sa vieille nourrice. Mmh. Tandis que Chabert, oui, il y a
le maréchal des logis.
Oui, qui le reconnaît.
De la vieille nourrice.
Qui le reconnaît. Mais en vérité, je ne veux pas dire que tous le reconnaissent, mais Derville sait d'emblée à qui il a affaire. Il voit bien, vous le disiez à l'instant, c'est un cœur pur. Hein, c'est un homme loyal, c'est un enfant. Il insiste aussi beaucoup, Balzac, hein, sur cette histoire de ce côté peut-être un peu puéril. Et puis, lorsqu'il sort de ce fumier humain, il sort de la fosse comme du ventre de sa mère. Il est nu comme un enfant. Hein. Et à la fin, on parle aussi, Balzac parle de ses enfantillages. Et donc Derville sait d'emblée que bon, il y a un accent de vérité, que ce personnage-là qui dit qu'il est le colonel Chabert est réellement le colonel Chabert, et sa femme aussi l'a reconnu.
Elle le reconnaît, oui, elle le reconnaît, oui, bien sûr. Mais vous dites dans votre livre, Jean-Paul Kaufmann, qu'en fait c'est l'anti-Ulysse, et la question que je me suis posée à relire le colonel Chabert après Outre-Terre, c'est celle de savoir si Ulysse est encore possible, c'est-à-dire quel sens dans le monde moderne a l'idée de retour. Parce que Ulysse rentre à Ithaque, et Ithaque est toujours Ithaque. Mais nous sommes dans des sociétés historiques, et Balzac y est sensible au premier chef. Donc il rentre, le colonel, il avait connu la comtesse de l'Empire, il revoyait une comtesse de la Restauration. L'histoire s'empare de tout, des lieux, des choses, des gens, et c'est un gêneur, il n'est plus à sa place, parce que le monde a changé et se détourne complètement de Napoléon, d'où le sentiment qu'il est devenu un gêneur. Mais c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, dès lors qu'il y a cette espèce de processus d'emportement historique généralisé. Est-ce que les lieux restent des lieux? Est-ce que le retour est encore possible?
Je peux dire un mot, c'est que Ulysse de Mer se dissimule son identité. Ce n'est pas qu'il n'est pas reconnu, c'est qu'il ne veut pas être reconnu, parce que son intention est de reprendre possession du royaume d'Ithaque. Ce qu'il fait, avec d'ailleurs une très grande cruauté, en tuant les prétendants. C'est affreux. Alors que le colonel Chabert veut juste reprendre son rang. Et en effet, la société a changé et il est méconnaissable. Il est, en effet, les gens reconnaissent en lui ce qu'a été sa grandeur passée, mais il en est proprement dépossédé. Oui, le monde a changé, mais c'est aussi ce qu'on voit dans le livre de Jean-Paul Kaufmann, si on a le droit de parler de ce livre, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Oui, je veux juste anticiper.
Vous me devancez alors.
Ouais, c'est pas grave. Mais
j'espère.
Parce que lorsque Jean-Paul Kaufmann va dans la Prusse orientale, devenue aujourd'hui une partie de la Russie, qui est située, comme il dit, outre-terre, comme nous disons le département d'outre-mer, on en est séparé par la mer, la Prusse orientale est séparée de la Russie par une partie de la Lituanie, la Biélorussie. Lorsqu'il y va, et c'est une région aussi où je suis allé, évidemment que tout a changé. Et quand on y va avec des souvenirs, ou les souvenirs de ses parents, ou des souvenirs de lecture, alors on se heurte à la réalité. Et la réalité... Il faut bien l'accepter, la réalité, qu'il y a des gens qui sont là, dont c'est le pays, pour qui n'ont pas les mêmes souvenirs, qui n'ont pas le même sens de l'orientation, qui n'ont pas les mêmes priorités historiques, pour qui 1941 ne veut pas dire la même chose que pour nous, etc. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre de Jean-Paul Kaufmann, c'est cette ouverture d'esprit qui lui permet d'aller là-bas et d'accueillir les différentes façons, les différentes sensibilités qui ne correspondent pas, évidemment, ni...
Oui, mais c'est bien ce que j'essayais de dire, justement, sur la difficulté de penser le retour aujourd'hui, le grand retour, puisque vous, Jean-Paul Kaufmann, en effet, vous retournez dans le passé, en quelque sorte, vous allez pour la première fois, enfin, c'est deux voyages, hein, 1991 puis 2007, en Prusse orientale, à Eylau. Mais Eylau est toujours Eylau, sauf que la Prusse orientale est une enclave russe et que Königsberg, la ville natale de Kant, est devenue Kaliningrad. Donc l'histoire est passée par là et a complètement transformé les choses, d'où un sentiment quand même de stupeur qui vous saisit et qui saisit le lecteur à travers vous. On est là à Elo et en même temps, on est complètement ailleurs.
Oui, parce que oui, vous avez tout à fait raison. Outre-Terre, oui, l'Outre-Terre, c'est quand même un pays extrêmement étrange. Parce que, bon, vous venez de le dire, c'est l'ancienne Prusse orientale. C'est quand même une terre chère au cœur des Allemands. Toute proportion gardée, c'est un peu, pour nous, sentimentalement, affectivement, comme l'Alsace-Lorraine. Königsberg, c'est Strasbourg. C'est là où est né le Emmanuel Kant. C'est là où a passé une bonne partie de sa jeunesse Hannah Arendt. Et puis, bon, un pays annexé par Staline en 1945. Et tous les Allemands qui se trouvaient là ont été expulsés manu militari et sont arrivés, en effet, des quatre coins de l'Empire soviétique, des gens qui ont pris possession de ces maisons d'un seul coup, là, comme ça, que raconte d'ailleurs un écrivain qui est né, là, un écrivain russe, Yuri Bouïda. Il raconte très bien cette histoire dans La fiancée prussienne. Donc, oui, tout a changé et ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est que lors de ce premier voyage, j'avais l'impression que toutes ces traces allemandes avaient été véritablement extirpées de ce pays, de cette terre. Et lorsque je suis revenu 15 ans plus tard, j'ai constaté une sorte de fructification là du souvenir. Et c'est un peu l'histoire aussi du colonel Chabert, c'est-à-dire que tout ce qui est violemment enfoui, un jour remonte brutalement à la surface. Et c'est ça, au fond, l'histoire du colonel Chabert. Et cette ville de Elo s'appelle aujourd'hui Bagrationovsk. Ce champ de bataille est intact. Il est indemne d'ablation. Et c'est cela aussi, ce voyage que j'ai effectué, c'est un voyage où il y a des spectres, où il y a des fantômes. Le plus important, en effet, est le colonel Chabert. La seule trace, au fond, la plus vivante aujourd'hui de cette bataille qui a eu lieu le 8 février 1807, eh bien, c'est cette figure imaginaire, le colonel Chabert. Lui, il est là, increvable, vivant, à jamais pour l'éternité. Il y a aussi la peinture du baron Gros, mais c'est un lendemain de bataille. C'est tout à fait différent. Mais les deux aussi sont liés. Balzac, lorsqu'il a écrit le colonel Chabert, connaissait la peinture du baron Gros là, le 9 février, lorsque Napoléon visite ce champ de bataille. C'est la figure consolatrice. Il ne veut pas regarder ce champ de bataille. Il a les yeux qui plafonnent. Il regarde le ciel. Et il y a un lien entre ces deux, entre cette peinture de Gros et le livre de Balzac, c'est incontestable.
Oui, mais alors, on peut se demander pourquoi choisir Elo ? Parce que c'est une bataille singulière dans l'épopée napoléonienne. Vous dites, Jean-Paul Kaufmann, Elo me donne la chair de poule. Quelque chose va finir, un autre âge commence, et vous y avez fait référence, Pierre Pachet, lors de votre première intervention. L'événement préfigure les massacres de mars, et en même temps, Elo, dites-vous, Jean-Paul Kaufmann, est un combat d'avant la rupture de 1914, au cours de laquelle vont se vérifier la guerre totale, l'industrialisation de la violence, la brutalisation de l'individu. La boucherie d'Elo appartient à un autre temps. Et en même temps, c'est à la différence des autres batailles, avant toute chose, une boucherie, d'autant qu'on se dispute aujourd'hui encore pour savoir qui l'a emporté. Les Russes revendiquent la victoire. Or, c'est quand même une victoire napoléonienne, puisqu'ensuite il y a la bataille de Friedland et le traité de Tilsit, qui était un des grands moments, justement, de l'histoire napoléonienne.
Oui, alors, c'est vrai que nous avons été extrêmement étonnés lorsque nous sommes arrivés au mois de février 2007. On pensait, nous, la famille Kaufmann, être seuls à visiter ce champ de bataille et qu'elle ne fut pas notre surprise de constater, eh bien, qu'il y avait 4 jours de célébration. Et s'il y avait ces réjouissances, c'est bien parce que les Russes avaient une petite idée. Et pour eux, il est évident qu'ils ont remporté cette bataille. Bon, alors, évidemment, on peut chipoter de manière chauvine. Il n'en reste pas moins que le soir de cette bataille où Napoléon est véritablement sonné. Et je crois que on parlait tout à l'heure du fumier humain, hein, que Chabert essaie de s'extirper là de cette de tous ces morts, de tous ces cadavres. Il y avait un sentiment de dégoût, de d'écœurement, tous ces cadavres mutilés et écrasés, et Napoléon est très angoissé parce qu'il pense qu'il va devoir le lendemain matin livrer une autre bataille, une nouvelle bataille, et il est extrêmement soulagé pendant la nuit d'apprendre, l'émissaire du maréchal Soult lui apprend que l'ennemi s'est retiré et il y a une sorte de... Il est délesté d'un grand poids. Bon, quand on est maître du champ de bataille, c'est en principe, on a gagné la bataille. Mais Napoléon n'en est pas tout à fait sûr et il sait qu'il n'y a pas de quoi crier victoire. C'est pour ça, contrairement à ses habitudes, il va rester pendant une semaine sur le champ de bataille d'Eylau pour signifier à l'Europe entière qu'il a gagné. Et peut-être est-il intéressant aussi de parler de cette peinture du Baron Gros. Il va quand même faire quelque chose d'assez extraordinaire, Napoléon. Il va essayer de reconquérir le champ de bataille en organisant ce concours de peinture. Hein, il se dit... Alors, quand vous parliez, est-ce que c'est prémonitoire de ce qui va se passer au XXe siècle ? Oui, la manipulation, les hécatombes aussi, les massacres de masse, on y est déjà. C'est un carnage. La boucherie d'Eylau, c'est vrai. Mais bon, parce que tout cela s'est déroulé... Il y avait la neige, il y avait ces uniformes blancs, ça s'est déroulé dans un espace très 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 étroit, 4 fois plus petit que Austerlitz, par exemple. Mais Napoléon sait très bien qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Et c'est pour ça que c'est un trou de mémoire nationale, Eylau. Et je pense que c'est intéressant que Balzac s'est intéressé à cette bataille parce que elle préfigure aussi ce qui va se passer 5 ans plus tard. Hein, c'est les 3 coups du destin. Non, pas Waterloo, la campagne de Russie,
ah oui.
La neige, les mutilations, Borodino, tout est déjà là. Et il va y avoir un avant et un après Eylau. C'est ça. Et Balzac s'intéressait beaucoup évidemment à Napoléon. C'est le personnage quand même tutélaire de la comédie humaine. Et il a voulu écrire un livre qui s'appelle La bataille, qui résumerait toutes les batailles. Alors, il est allé à Wagram, il est allé à Essling, et finalement, il a renoncé à ce projet. Bon, c'est, en même temps, parler de cette histoire d'Eylau, histoire-bataille, genre Oni entre tous, c'est vrai que l'éclat d'Eylau s'est éteint peu à peu. On n'en parle plus aujourd'hui.
Non, on n'en parle plus. Vous en parlez. Mais Pierre Pachet, vous m'avez parlé, avant cette émission... D'une autre nouvelle de Balzac, à laquelle vous êtes très attaché, où ce n'est pas d'Eylau qu'il s'agit, mais précisément de la Bérézina.
Oui.
Adieu.
Adieu. Oui, je l'ai découvert beaucoup plus tard par un ami qui m'a dit « Comment tu ne connais pas Adieu ?» Alors ça aussi, c'est une histoire fantastique qui se passe d'abord en France dans une propriété, et puis on remonte là, comme dans... Colonel Chabert, on remonte au moment du passage de la Bérézina, ce moment héroïque où les pontonniers du général Eblé ont permis à l'armée de passer. Et alors, je ne sais pas par quel prodige de cette imagination bouillonnante qu'il avait dans le cerveau, Balzac arrive à reconstituer, on pourrait dire doublement, le passage de la Bérézina. Il le reconstitue comme s'il y avait été, avec les fuyards, les baraques incendiées, la misère, les soldats qui grelottent, qui meurent de faim, l'armée qui se défait, la discipline qui est en miettes. Mais il l'a refait d'une autre façon, puisque dans l'histoire même de Adieu, il y a une scène hollywoodienne où Balzac invente c'était, on pourrait dire, cette réalité ou ce fantasme qui a tant d'importance pour nos contemporains, le traumatisme. Puisque, là aussi, une jeune femme se trouve dans une voiture au moment du passage de la Bérézina, dans des circonstances dramatiques. Son mari est décapité par un glaçon. Elle dit adieu à son amant qu'elle ne revoit pas. Et elle devient, c'est un traumatisme, c'est-à-dire elle devient, elle retombe dans un état quasi animal. Et donc, son ancien amant, qui la retrouve, a cette idée absurde, merveilleuse et terrible de reconstituer le passage de la Bérézina dans un paysage français en profitant de la neige et d'amener cette jeune femme à voir ce paysage qui a détruit sa raison. Et au moment où elle voit cette reconstitution cinématographique, en quelque sorte, complètement artificielle, en effet, elle reconnaît son amant, que jusqu'alors elle ne reconnaissait pas, et elle meurt. Alors, c'est très fort, mais là aussi, je suis frappé par la reconstitution du passage de la Bérézina, un moment terrible entre tous, et j'admire Balzac d'avoir eu le courage d'entrer là-dedans, lui qui n'avait vécu rien de tout ça, c'est saisissant. Adieu, je le recommande.
Et il n'a pas choisi, visiblement, les batailles glorieuses. Il a choisi les batailles terribles, quand même. Hello ou la Bérézina.
Bah oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a intéressé. En tout cas, moi, c'est ce côté entre deux, ce côté indécis. Hello, c'est... Il y a ce côté flottant, qui est un peu aussi à l'image de l'outre-terre que j'ai essayé de décrire dans ce livre.
Alors, pour revenir quand même sur le colonel Chabert, et peut-être sur vous, Jean-Paul Kaufmann, j'espère que vous ne me trouverez pas trop intrusif, mais c'est votre livre, Outre-terre, qui m'y autorise. Parce que vous dites... à un moment donné dans le livre, de tous les personnages de Balzac, Chabert n'est sans doute pas le plus complexe ni le plus inattendu, pourtant il est inépuisable. Chacun peut y chercher à travers son histoire personnelle des traces de ses propres heurts, de ses arrachements, de ses phobies. Chabert est la figure de l'absent, du disparu, du gêneur. Il représente l'individu dont on ne veut plus entendre parler. Il est par-dessus tout la chose enfouie qui revient violemment à la surface. Et un peu plus haut dans le même livre, vous dites « Après une immobilisation involontaire de 3 années, j'avais été pris par une frénésie de voyage. »
Quel euphémisme.
« Pendant mon absence, en effet, le monde avait changé. Au retour, je me sentais inopportun. Une personne déplacée. » Donc, vous entretenez quand même un rapport particulier, étant donné votre histoire, avec le colonel Chabert. Vous avez fait cette expérience, vous-même, d'être une espèce de revenant. Lui, c'est un gêneur. Vous, dans des circonstances plus générales, vous dites « je me sentais inopportun ».
Oui, pendant ces 3 années, en effet, le monde avait changé. Et par exemple, le métier que j'exerçais, celui de journaliste, je ne me sentais plus capable. Il avait changé aussi pendant ces 3 années. Et je n'étais plus capable de l'exercer. Bon, la comparaison quand même avec Chabert, je ne veux pas dire s'arrête là. Chabert, c'est quand même quelqu'un aussi qui veut... Il essaie de réintégrer le monde des vivants. Moi, j'y suis parvenu quand même, je l'espère. J'ai été bien accueilli, c'est vrai. Donc, ça n'est pas comparable. Il y a quand même une chose aussi qui, alors, pourrait ressembler à son histoire. C'est quand je parle de héros lazaréens. Ce personnage qui surgit dans Entre les morts, qui est le personnage de Lazare. Et il y a cette remontée à la surface dont vous parliez, Père Pachet, tout à l'heure, là, lorsqu'il est il est dans un tombeau, il y a le silence des morts, et puis il va essayer de creuser avec cette os, et puis il parvient à la surface, à la lumière, il y a quelque chose de très brutal. Et c'est vrai que lorsque moi j'ai été libéré, j'ai senti aussi ce côté lazarien. Là, j'étais comme ligoté par des bandelettes et j'avais été plongé dans la lumière, dans les ténèbres, et je remontais à la lumière. C'est vrai, il y a quelque chose de très brutal. Mais Chabert, lui, bah, il a compris, il lui dit « personne ne veut de moi », il reprend son nom d'avant, il redevient Hyacinthe, numéro 164, 7e salle à l'hôpital de Bicêtre. Donc il retourne au royaume des morts, et voilà, c'est quand même différent de ma propre histoire.
Enfin, le colonel Chabert, lorsqu'il est à Bicêtre, tout à l'heure vous disiez l'un et l'autre, il me semble, il a perdu la tête. Enfin, il n'a pas vraiment perdu la tête parce que il a gardé l'esprit moqueur lorsqu'il est sur le chemin avec un camarade qui voit passer des officiers, ces officiers prussiens qui occupent Paris. Il lui reste assez d'esprit pour se moquer d'eux et faire valoir qu'il y a eu des circonstances dans lesquelles l'armée napoléonienne a remporté des victoires. Oui, cette expression de littérature lazaréenne, vous le savez, elle a été employée par Jean Cayrol après la guerre pour décrire ces récits. Parce que là, ce à quoi on s'intéresse avec le colonel Chabert, en effet, c'est moins l'horreur qui a fasciné tant de nos contemporains dans les récits de ceux qui revenaient de loin. C'est moins l'horreur que le retour, que la difficulté du retour. Et en effet, en ce sens, c'est bien une littérature. Ça appartient à la littérature lazaréenne, le colonel Chabert. Ça l'anticipe. Ce moment si difficile, excusez-moi de citer à nouveau Primo Levi, qui imagine quand il est au camp, il fait ce rêve terrible qu'il rentre chez lui et il veut raconter son histoire et personne ne le croit. C'est ce que Balzac a anticipé par je ne sais quel accès de génie.
Oui, puis il veut Jean-Paul Goffman. En plus de ça, oui, il veut. Le problème de Chabert aussi, c'est que il pense que il va redevenir ce qu'il était auparavant, que la vie, au fond, il va récupérer son épouse, et puis que la vie, c'était une parenthèse, cette histoire, et il va redevenir ce qu'il était. Mais évidemment, c'est impossible. Mais c'est, il le croit naïvement, et c'est là son problème, c'est là tout son drame.
Oui, rien ne peut redevenir comme avant. Donc c'est parce que tout est endommagé. Historique, tout est endommagé, et il y a une espèce d'historicité.
On ne peut pas remettre à neuf.
Qui emporte tout. La page a été tournée, c'est ça. C'est pas simplement sa femme qui s'est recasée, si l'on peut dire. C'est que la France est passée à un autre moment de son histoire, et donc Chabert est anachronique. Chabert est complètement à côté de la plaque. Il choisit, et ça aussi, c'est assez extraordinaire quand on pense au temps présent, il abandonne ses revendications et il redevient un pur prénom. Ce n'est plus le colonel Chabert, c'est Hyacinthe, parce que le nom, c'est... Mais alors, c'est étonnant aujourd'hui, parce que nous vivons dans une scission des prénoms. Le prénom, aujourd'hui, c'est devenu l'affirmation emphatique de soi-même. On n'est plus qu'un prénom, comme si on était auto-engendré. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il n'y a plus que des Hyacinthes, mais voilà, même les hommes politiques s'appellent par leur prénom. Alors que là, dans le colonel Chabert, le prénom, c'est une sorte de renoncement. Renoncement à quelque chose. Le fait qu'il ne soit plus que Hyacinthe a quelque chose de douloureux, de pathétique et même
oui,
de tragique.
Oui, mais en même temps, pardon... Oui. C'est en même temps, comme l'a dit Jean-Paul Coffin tout à l'heure, reprenant son prénom, son nom d'Hyacinthe, il retrouve sa véritable identité d'enfant trouvé, dont il n'a pas honte. Non, il n'a pas honte d'être un enfant trouvé, comme il n'a pas honte d'avoir épousé une prostituée du Palais Royal. Et c'est là qu'il est incroyable. Donc, il a tout perdu, mais...
Et pas
sauf
son honneur.
Lui-même,
oui. Et pas son honneur, oui, c'est vrai. Et c'est ce qui, en effet, le rend, tout au long du livre, si extraordinaire, si admirable. Mais ce personnage, vous le disiez, Pierre Pachet, comme beaucoup d'autres, beaucoup de personnes réelles, a un lien très particulier avec Napoléon. Hein, Napoléon, oui, le soleil s'est couché, quand Napoléon, c'était le patron, etc. Mais alors, justement, comment expliquer ce lien? Et ça, je voudrais vous interroger, Jean-Paul Kaufmann, vous-même. Vous ne communiez pas dans le culte de Napoléon. Et en même temps, visiblement, ce personnage vous fascine et vous obsède, puisque après la chambre noire de Longwood, vous lui consacrez aussi Outre-Terre, puisque il s'agit beaucoup dans Outre-Terre de Napoléon.
Oui, alors,
quelle est la nature de ce lien que vous entretenez avec l'empereur?
D'abord, ça s'est fait tout à fait par hasard. Je suis allé à Sainte-Hélène. J'étais devenu une sorte de spécialiste des îles puisque j'avais écrit un livre sur les Kerguelen. Donc j'y suis allé. J'ai été amené à m'intéresser à Napoléon. Et ce qui m'intéressait à Sainte-Hélène, c'était... Et c'est l'homme vaincu, c'est l'homme désarmé. Et au fond, à Longwood, ce qui m'a le plus fasciné, c'est la baignoire. Où il a passé les deux dernières années de sa vie, Napoléon. Il mangeait dans sa baignoire, il lisait dans sa baignoire, il s'intéressait plus à grand chose. Et c'est ça que j'aimais, l'homme nu, l'homme désarmé, l'homme vaincu. Et Hello, c'est peut-être ça aussi qui m'a intéressé chez Napoléon, justement, c'est la victoire incertaine, et puis il a failli tout perdre. Hein. Il a été à deux doigts d'être capturé, et la charge... Parce que Chabert prétend que c'est cette charge de cavalerie qui a décidé le gain de la bataille. Mais c'est pas vrai. C'est que rien n'était véritablement réglé. Ensuite, il y a eu l'arrivée des Prussiens. Et in extremis, heureusement pour lui, Ney qui est arrivé dans la nuit. Donc, il a failli tout perdre. Et c'est un non... Un mot, Hello, qu'il n'aimait pas entendre prononcer à Sainte-Hélène. Parce que, Waterloo, pas de problème. Mais il y a un avant et un après Hello. Parce que, comme il le dit à Metternich, vous, les rois, ils peuvent se permettre de perdre une bataille. Hein, ils sont là depuis des siècles. Tandis que moi, je suis un soldat parvenu. Hein, et donc, il doit gagner à chaque fois. Et c'est ça que qui m'intéresse chez ce personnage. Au fond, c'est son attitude dans la chute, parce qu'à partir de Leipzig, Dresde, il sait que tout est cuit, quoi, et que finalement, ce qui devait arriver allait arriver. Je voyais. Arrivée l'heure décisive, mon étoile pâlissait, les rênes m'échappaient et je n'y pouvais rien. Vous voyez, il y a quelque chose qui était, il y a un côté irréversible. Il le sait, il sait que la chute aura lieu. Et d'ailleurs, pendant la campagne de France, il a le moral, etc. Alors qu'il sait que c'est foutu, quoi. Et c'est ça qui m'a intéressé chez ce personnage. Et une dernière chose, je cite ce mot de Stendhal, il a redonné le moral au peuple français. C'est là sa vertu. Redonner le moral au peuple français dans un pays ruiné, traumatisé, ce n'est pas rien.
Oui, je n'ai pas de tendresse particulière pour Napoléon, je dois dire. Je suis stupéfait par l'aventure militaire qu'il a conduite, par aussi l'intelligence avec laquelle il a gouverné la France et lui a donné de nouvelles institutions, un code civil, etc. Mais je dois dire que le livre de Jean-Paul Kaufmann, je ne veux pas dire qu'elle a changé mon point de vue, mais la passion de Kaufmann pour le détail... Elle m'emporte. Par exemple, il essaye de décrire ce que c'est qu'une charge de cavalerie. Qu'est-ce que c'est les cuirassiers? Comment ils sont protégés? L'effet que ça fait sur les fantassins de voir arriver sur eux charge après charge de soldats montés sur... c'est bien. Voilà, c'est l'anticipation. Exactement. Alors je trouve... dans l'impartialité qu'il faut nécessairement avoir avec des faits qui sont si lointains, je trouve que Jean-Paul Kaufmann il a fait quelque chose de tout à fait remarquable, de précision, de passion. Par exemple, on se dit il a lu toute la bibliothèque napoléonienne, c'est peut-être sans doute pas, mais quand même une grande partie. Il a lu un livre, alors là je l'admire de l'avoir lu, c'est le livre de Léon Blois sur Napoléon. parce que j'aime bien Léon Blois, c'est un styliste, c'est un type en colère. Il a écrit sur Napoléon, et il écrit bien sur Napoléon.
C'est un livre absolument extraordinaire,
Bah, voyez,
un peu hystérique, enfin, dans l'excès, comme
c'est
l'être Léon Blois. Oui, c'est vrai, qu'il a, et pour lui, c'est la bataille, d'ailleurs, Hello. Il accorde beaucoup, c'est un petit livre, L'âme de Napoléon, très intense, mais pour lui, il n'y en a pas d'autre, c'est la bataille avec un grand B.
Alors, il y a un poète aussi qui a écrit sur cette bataille, et vous y faites référence,
oui,
Jean-Paul Kauffmann.
Le cimetière d'Eylau.
C'est le cimetière d'Eylau, c'est-à-dire Victor Hugo. Ce n'est sans doute pas la grande bataille pour lui, mais il dit des choses qui trouvent une résonance dans Outre-Terre. La neige en cette nuit flottait comme un duvet, et l'on s'exterminait, ma foi, comme on pouvait. On faisait de son mieux. Pensif dans les décombres, je voyais mes soldats rôder comme des ombres. Un peu plus loin, nous étions fusillés l'un après l'autre. Un râle immense remplissait cette ombre sépulcrale. Les rois ont des soldats comme vous, vos jouets. Et Napoléon avait peut-être des soldats comme d'autres ont des jouets. Il n'empêche qu'il a cette lettre à Joséphine que vous citez, Jean-Paul Kauffmann. Le 14 février 1807, quelques jours seulement après la bataille, l'on souffre et l'âme est oppressée de voir tant de victimes. Et c'est le paradoxe de Napoléon, qu'il est profondément indifférent, et en même temps, dites-vous, c'était une nature sentimentale.
Oui, il pleurait, c'est assez facilement. Cette bataille, ce cimetière d'Eylau raconté dans la légende des siècles est intéressant parce que c'est le témoignage en effet de l'oncle de Victor Hugo, Louis Hugo, qui est dans le cimetière et ils sont 150 et à la fin ils sont trois rescapés. Et c'est ça aussi.
C'est ça la bataille d'Eylau.
C'est ça la bataille d'Eylau et j'ai essayé de retrouver d'ailleurs ce cimetière. Cette église est toujours là. C'est un peu le but d'ailleurs de ce livre. C'est ça qui est extraordinaire, cette église qui est un peu l'icône de la bataille d'Eylau. Quand on voit une église au loin avec un champ de neige, on sait aussitôt qu'on a affaire à Eylau. Aujourd'hui, c'est devenu une usine à bout de souffle, mais increvable.
L'église est
très russe, comme dit la guide Yulia.
Voilà, l'église est devenue une usine. Ce sont les surprises du retour. Merci Pierre Pachet. Merci Jean-Paul Kauffmann. Je rappelle, Jean-Paul Kauffmann, le titre de votre livre, Outre-Terre. Il est publié aux éditions Équateur. Le colonel Chabert, on le trouve dans plusieurs collections, notamment dans le livre de poche, avec une introduction très éclairante de Stéphane Vachon. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.